vue à moi, depuis quelques temps, c'est la cuisine. Parce que je m'occupe de la cuisine aussi. On a des cuisinières, mais je m'occupe de préparer le menu, qu'est-ce que les sœurs aiment, qu'est-ce que... Alors, tu sais, c'est toujours... J'ai toujours ça en arrière de la tête, alors...
À chaque fois que j'entre au monastère des Augustines, la première chose que je ressens, c'est l'énergie très particulière qui s'en dégage. Dans ce balado, je vous propose de découvrir cet endroit unique grâce au témoignage des religieuses qui l'habitent encore. Je m'appelle Marie-Claude Paradis, je suis journaliste et voici...
Mémoire d'Augustine.
Alors ici, c'est la cuisine pour les religieuses. Alors vous voyez notre... Notre cuisinière, Shi Yano, qui vient du Japon. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a la cuisine ici.
Et qui est juste pour...
Ça, c'est juste pour les religieuses.
Ça te convient maintenant?
On est 9.
Je trouvais que c'était un beau clin d'œil au passé que Sœur Sylvie me parle de la cuisine, puisque c'est comme ça que sa vie avec les Augustines a commencé. On se rappellera que c'est lorsqu'elle a commencé à travailler comme cuisinière au monastère de Roberval qu'elle a senti l'appel pour la vie religieuse. De nos jours, c'est elle qui est en charge de la planification des repas pour les Augustines du monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec. Et c'est une responsabilité qu'elle prend à cœur.
Je me dois de bien nourrir mes sœurs parce que quand on est bien nourri, on est heureuse. On n'a pas de chiolage. Saint Augustin nous le dit, hein. Quand on est heureux, qu'on est bien nourri, tout va bien. Alors, pour moi, c'est important. Puis, j'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup la cuisine. J'aimerais ça en faire plus, mais j'ai pas le temps.
Si on parle de nourriture dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce que c'est intimement lié à la mission première des Augustines, celle de soigner, comme l'explique Ariane Blanchet-Robitaille, la conservatrice du musée du monastère.
L'alimentation était vraiment très importante dans la vie des Augustines. C'était une activité, en fait, qui était réalisée par les sœurs converses, donc celles qui restaient du côté du monastère, mais non seulement pour les Augustines, mais aussi pour les malades du côté de l'hôpital. On sait qu'elles apportaient une grande importance à l'alimentation des patients, qui c'était une manière, en fait, de soigner en donnant des aliments de qualité, beaucoup de calories par jour pour les patients pour qu'ils se remettent sur pied. Donc, c'était une manière de soigner d'abord et avant tout.
Quand on consulte les archives, on comprend bien toute la place que la nourriture occupait dans le soin des malades, et ce, depuis très longtemps, à une époque où le concept de saine alimentation n'existait pas et où les notions de nutrition étaient plutôt inexistantes. On écoute Sarah Bélanger, la responsable du centre d'archives du monastère.
Ce qui est extraordinaire aussi dans les archives, c'est qu'on voit que les patients, ils sont bien nourris par les Augustines. Là, on parle de 2000 à 3000 calories par jour que certains pouvaient avoir en nourriture. Donc, du pain, des fruits, des légumes, de la viande, mais du poisson aussi à l'occasion. Le vin, la tisane, elles vont nourrir leurs patients de bonne façon. C'est pourquoi on dit qu'ils se sont mis à guérir ces patients. Là, parce que souvent, ils recevaient là, vraiment une alimentation biologique, disons-le, avec tous les nutriments là, dont quelqu'un pouvait avoir besoin pour reprendre des forces.
Un tel régime alimentaire et autant de calories quotidiennes, ça peut sembler banal de nos jours. Mais il faut se replacer dans le contexte historique. À l'époque de la Nouvelle-France et même après ça, les gens mangeaient souvent la même chose jour après jour. Alors, une alimentation aussi variée, c'était pas nécessairement la norme.
Mais allez pas croire que les Augustines vont se réserver nécessairement le même sort. Au contraire, dans la communauté, on a une alimentation beaucoup plus frugale.
Les Augustines vont même aller jusqu'à se priver elles-mêmes de nourriture parfois pour en garder pour leurs patients. Et comme ça donne de bons résultats, bien nourrir les patients, je veux dire, là, pas se priver de manger, elles vont continuer.
Évidemment, quand on voit que telle nourriture fonctionne, de génération en génération, on va perpétuer cette façon de faire parce que on va comprendre que ça a une place importante dans la guérison.
Puisque ça fait déjà quelques siècles que les Augustines ont compris qu'il faut bien manger pour guérir, c'est pas étonnant que Sœur Sylvie accorde autant d'importance à son rôle de responsable des repas.
C'est que les sœurs sont plus âgées. Alors, c'est pour ça que je trouve ça important de bien les nourrir pour les garder le plus longtemps possible. Parce qu'ils sont précieuses pour nous autres. Parce qu'il n'y en a pas d'autres après nous autres.
Est-ce que vous vous êtes intéressée au patrimoine culinaire des Augustines? Je sais qu'elles ont laissé des livres de recettes, entre autres.
Bien, oui, je m'en suis intéressée, mais j'ai trouvé des recettes. Mais c'est des recettes pour 100 personnes, puis 150 personnes. Alors, tu sais, là, moi, là, je me suis dit, ah, ben là, non, je commence pas à calculer, là, puis diminuer, enlever des zéros pour 10 personnes, là. J'ai dit non, là, je pense que... Je vais beaucoup sur Internet pour chercher des recettes.
Peut-être Ricardo a remplacé les recettes.
Oui!
Mais bon, dans le temps, Ricardo n'était pas encore né, puis Internet n'existait pas. Alors, les Augustines n'ont pas eu le choix de créer leurs propres recettes.
Alors, les fameuses recettes, le fameux patrimoine culinaire des Augustines, c'est vraiment important pour les Augustines, les traditions culinaires. Donc, de génération en génération, elles vont vraiment maintenir une façon de faire qui est propre à elles. Puis, elles vont écrire là, à la main souvent des recettes. Et souvent, ça va être des recettes pour des grandes, grandes, grandes tables, comme parce que, bon, on veut nourrir les malades, on veut nourrir la communauté. Par exemple, ici, pour vous montrer là, à quel point, des fois, c'est pour des grandes quantités, on a une recette de blanquette de viande blanche et on a les quantités, une pour 300 personnes, une autre pour 400 personnes. Pour les 300 personnes, ben, on a besoin de 15 livres de viande. Ici, là, on a un flan, donc pour 75 personnes, on a besoin de 5 douzaines d'œufs.
Ouais! C'est sûr que ça fait des grosses épiceries, hein? Et il n'y a pas juste les recettes qui sont impressionnantes. Les collections d'articles de cuisine et de vaisselle aussi. Dans les réserves du musée, Ariane explique qu'on retrouve énormément de moules, d'assiettes, d'ensembles de coutellerie, d'ustensiles de cuisson, et j'en passe.
Au niveau du patrimoine culinaire dans les collections, on a énormément d'objets qui permettent de témoigner à la fois des pratiques tant du côté de la communauté que du côté de l'hôpital, que ce soit les services de vaisselle qui étaient utilisés par les Augustines ou pour les patients. Encore là, on note une grande différence dans la qualité des matériaux, notamment. Ce qui était utilisé pour les patients du côté de l'hôpital était toujours plus raffiné que ce qui était utilisé pour le commun là, du côté de la communauté.
Là, ce qu'on voit, est-ce que c'est la vaisselle pour les malades?
Oui, exactement. Ah. Donc, on a ici, en fait, un service de vaisselle qui était utilisé pour les malades à l'Hôtel-Dieu de Québec. On est bien loin là, de la vaisselle qui est utilisée aujourd'hui, évidemment. Donc, c'est une belle vaisselle en céramique blanche avec le monogramme de l'Hôtel-Dieu de Québec en rouge vin. Sur chaque pièce de vaisselle, donc que ce soit pour l'assiette de repas principal jusqu'à l'assiette à beurre ou le petit crémier, il y a le monogramme qui est répété. Et en fait, ça permet de témoigner là, de tout le soin qui était donné dans l'alimentation des patients. Et bien que super impressionnant, en fait, ce service de vaisselle-là, c'était pour les chambres communes. Les chambres privées, en fait, bénéficiaient de services de vaisselle en argent. Donc, c'était encore un soin supplémentaire là, qui était donné aux patients là, qui avaient les moyens de payer pour leurs soins et ainsi de financer les activités, évidemment, là, de l'hôpital.
Vous avez bien compris. Les patients plus fortunés qui avaient les moyens de se payer une chambre privée mangeaient dans de la vaisselle en argent. Mais les revenus que ça représentait étaient réinvestis dans l'hôpital. Alors, c'est un genre de système à deux vitesses pour la bonne cause. Ce ne sera pas leur seule source de revenus, d'ailleurs. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais aussi et surtout pour financer leur œuvre hospitalière, les Augustines vont vendre des fleurs artificielles et des objets en cire, notamment. Elles vont aussi avoir leur propre cordonnerie, leur imprimerie. Parce que, faut pas l'oublier, les religieuses, c'était aussi des gestionnaires. Des gestionnaires qui vont réussir malgré toutes les embûches.
Les Augustines vont s'endetter à certaines époques vraiment de façon assez importante, que ce soit quand elles ont fait face au feu en 1755 pour la reconstruction. Elles doivent emprunter auprès de créanciers. Avec les guerres, c'est la même chose. Donc, elles vont des fois accumuler des dettes vraiment importantes, mais elles vont toujours être capables de s'en tirer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles vont toujours persévérer. Donc, à travers leur histoire, c'est un organisme, dans le fond, qui n'a pas fait banqueroute, mais les gens qui l'ont tenu, donc les Augustines, ont bien géré, même devant des dettes importantes, pour finir toujours par s'en sortir. Elles géraient, les Augustines, leurs hôpitaux de A à Z. Donc, vraiment, c'était une gestion qui était très rigoureuse. Les archives nous montrent vraiment des comptes, puis tout ce qui est le domaine financier là, qui était tenu au jour le jour, les revenus comme les dépenses. On a vraiment des exemples de registres là, qui sont tenus d'une main de maître par les Augustines. Donc, d'un côté, elles tenaient toute la gestion de leur monastère, mais de l'autre côté aussi, la gestion de l'hôpital dans lequel elle était impliquée. Ici, en fait, on a notre fameux livre de comptes qui est dans les années là, 1761 à 1782. Et on peut faire l'inventaire de tout ce qui était dépensé pour pouvoir gérer notre hôpital.
Mais ce qui frappe, c'est ça, c'est entre, ben, un, la...
La qualité, hein? C'est-tu beau?
La calligraphie.
C'est prendre soin de tout écrire, là. Nous, quand on fait nos comptes, maintenant, si c'est pas par... sur l'ordinateur, là, on prend-tu vraiment tout ça en belles notes avec une droiture d'exception? Donc, on est vraiment là dans un document parfaitement conservé.
Je vous dis qu'on est loin du tableau Excel ici, ou des pattes de mouche dans un petit livre de comptabilité. Le livre de compte qu'on regarde est superbe, grand, la calligraphie est impeccable et tout est détaillé. On voit que celles qui l'ont tenu étaient très minutieuses. On l'a déjà dit, les Augustines avaient un talent certain pour garder des traces de tout ce qu'elles faisaient. Et elles ont tout conservé, et bien conservé en plus. C'est pas pour rien que leurs archives sont maintenant inscrites au Registre canadien de la mémoire du monde de l'UNESCO, qui présente les documents les plus significatifs du patrimoine et de l'histoire de l'humanité. C'est pas rien.
Ici, nous voyons un des documents que je préfère. Donc, c'est le plan des premières constructions de l'Hôtel-Dieu de Québec.
On peut lire...
Les remparts sont nommés. On voit ici la rue Couillard aussi. Il y a une allée de l'hôpital qui s'appelle maintenant la rue de l'Hôtel-Dieu. Effectivement, la rue Saint-Jean, elle est nommée. Donc, notre fameuse rue Saint-Jean à Québec. On voit les cours d'eau aussi autour, la rivière Saint-Charles. Donc, ce plan qui date d'environ 1740 est déjà... on voit là que les sœurs cultivaient sur le plan des grands jardins. Donc, il y avait le jardin de la communauté, mais il y avait aussi le jardin des pauvres. Donc, le jardin des pauvres, c'était là qu'on cultivait, entre autres, pour faire la nourriture, cultiver la nourriture pour les malades à l'Hôtel-Dieu. On voit aussi qu'il y a des porcheries, un poulailler, il y a des vergers. Donc, il y a vraiment autour de l'Hôtel-Dieu toute une agriculture qui se fait déjà autour de 1740, qui est bien établie. Et de plus en plus, les sœurs vont devenir au fil du temps de grandes propriétaires, voire des seigneuresses.
Donc, pour nourrir correctement les malades, à une époque où les grandes épiceries n'existaient pas, les Augustines vont se retrouver non seulement à cultiver elles-mêmes des potagers autour de leur monastère, mais elles vont devoir développer leurs compétences en administration.
petit à petit, elles vont aussi acquérir des terres ailleurs, donc en périphérie de Québec, mais aussi des fermes, des poulaillers, des différents endroits pour faire la boucherie. Donc, elles vont avoir des employés sur cette terre-là qui vont travailler pour elles. Puis, elles vont faire toute cette gestion-là des employés, de la culture aussi là, qu'on va tirer de ces terres.
Encore aujourd'hui, ces femmes de prière sont aussi des gestionnaires aguerries.
Il y a une sœur qui disait, une économe, elle dit, moi, j'ai le chapelet d'une main puis le téléphone de l'autre. Cellulaire de l'autre.
Sœur Sylvie aussi manie aussi bien le chapelet que le cellulaire ou la calculatrice. Dans les années 2000, elle est partie en mission au Paraguay et elle y est restée pendant 5 ans. Elle est revenue lorsque sa communauté a eu besoin de quelqu'un à l'économa. Et elle fait maintenant partie du chapitre général à Québec.
Alors, depuis 2014 que je suis ici, assistante générale, économe générale.
Bon, là, il faut que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est
une économe. Une économe, c'est une trésorière, c'est une administratrice. Chaque monastère a son administration, mais l'économe générale chapeaute tous les monastères. Ensuite, elle s'occupe des placements, des personnes qui vont à l'étranger, les voyages. Depuis 2016, on a fait un regroupement de 4 communautés. Alors, c'est moi qui est économe des 4 monastères. J'ai plusieurs chapeaux.
L'ironie de la chose, c'est qu'avant de prononcer ses vœux pour devenir Augustine, sœur Sylvie avait senti le besoin de prendre une pause pour voir si elle était capable de vivre toute seule et de faire un budget. Elle dit que c'est en mission qu'elle a développé ses talents d'administratrice. On peut dire qu'elle s'inscrit ainsi dans une lignée de femmes qui, grâce à leurs compétences comme soignantes, mais aussi comme femmes d'affaires, ont eu un réel impact sur l'histoire du Québec.
Ici, on a un magnifique document, donc un parchemin, signé par nul autre que le roi Louis XIV, donc une lettre d'amortissement qui date de 1680. Donc, si je te montre ici un peu, là, tu vois la signature de Louis. Donc, c'est vraiment le roi Soleil, donc ni plus ni moins, qui va exempter, entre autres, les Augustines là, de payer des taxes sur certaines terres.
Attends une minute, je capote un peu.
Ici, on a même, si on détache ici, là, ce petit bout-là, on a le sceau du roi Louis, donc qui est toujours collé avec le parchemin. Donc, on a des grands personnages avec qui les Augustines ont traité de façon directe. Donc, ça montre vraiment qu'elles ont participé à l'histoire avec les grands personnages d'époque. On a des lettres de Montcalm, des lettres de Frontenac, donc vraiment des généraux, des grands politiciens ou encore les rois qui ont participé à l'histoire des Augustines.
L'héritage des Augustines, moi, je suis très chanceuse. Très chanceuse parce que c'est pas moi qui a bâti, c'est pas moi qui a construit les maisons, c'est pas moi qui a... Mais j'arrive dedans. J'en suis une héritière. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. C'est pour ça que c'est important de le garder. Moi, je trouve ça extraordinaire, les sœurs qui ont travaillé, qui ont tout gardé, pensant que ça pourrait être important un jour. Puis là, on le vit ce jour-là. C'est important aujourd'hui, tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont gardé, tout ce qu'elles ont construit. C'est inimaginable. C'est inimaginable tous les efforts qu'ils ont faits, toutes les prières qu'ils ont faites, toutes les personnes qu'ils ont soignées. C'est pas juste des bâtisses, c'est pas juste des objets. C'est le vécu que les religieuses ont eu dans ces lieux-là. C'est ça qu'on ressent encore aujourd'hui.
Si l'écoute de cet épisode vous donne envie de découvrir ou de redécouvrir le monastère des Augustines, vous pouvez y planifier un séjour, participer aux activités ou en visiter le musée. Vous trouverez tous les détails sur le site monastère.ca. Le balado Mémoire d'Augustine a été conçu et réalisé par moi-même, Marie-Claude Paradis, avec la collaboration d'Andréanne Quentin et de Lisa-Marie Perrault, responsable du musée du monastère des Augustines, et avec l'aide de Pascal Séguin pour le mixage sonore. Je souhaite dire un immense merci à toutes celles qui ont généreusement offert leur témoignage. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.